là, vous le savez, dès qu'il a eu quitté le ministère de l'Air et qu'il a été nommé préfet de l'Eure-et-Loir, à Chartres d'ailleurs, il a été immédiatement anti-pétiniste, c'est-à-dire n'ayant pas accepté la défaite, a voulu tout de suite rejoindre De Gaulle, mais avant de rejoindre De Gaulle, il m'a contacté par l'intermédiaire du colonel Sadi Lecointe, qui était donc inspecteur général de l'aviation populaire, et qui était avec lui au ministère de l'Air, au cabinet de Pierre-Côte, et qui était également un de mes grands amis, car il avait un employé dans Touraine, et puis je le voyais très régulièrement lorsque j'étais donc président de l'aviation populaire pro-militaire de 36 à 38. 1936 à 1938. On a commencé, n'ayant pas de réseau à cette époque-là, bien entendu, dès 1940, on a commencé à prendre contact avec le service de renseignement de l'armée de l'air, le bureau numéro 2, je crois, de Vichy d'ailleurs, dont le colonel Rodin était à la tête, et qui devait travailler régulièrement dans les renseignements pour Pétain, mais en même temps qu'il travaillait pour Pétain, il travaillait pour la résistance. Il donnait ce qu'il voulait bien donner à Pétain, et le reste passait à Londres. Et pour arriver à avoir des renseignements pour Londres, il avait affaire à des gens comme nous, c'est-à-dire des anciens de l'aviation. D'ailleurs, dans l'aviation populaire pré-militaire, vous avez à peu près tous ceux qui étaient dans les postes de direction, tous étaient dans la résistance à peu près. Soit sont partis à Londres dans la Royal Air Force, soit dans la... en Algérie ou en Afrique ou ailleurs, mais tous étaient dans les FFL, Force Française Libre. Bon, bref, étant dans le réseau SRR, j'ai... moi, mon travail consistait à prendre tous les renseignements sur les côtes de Bretagne, où les Allemands commençaient à construire des fortifications, d'une part, et d'autre part, à repérer sur les bases aériennes occupées par les Allemands les emplacements exacts où étaient les avions, car les avions n'étaient pas dans la base même, ils étaient aux environs des bases, camouflés sous des feuillages, sous des tentes, et à plusieurs kilomètres, mais l'aviation alliée ne pouvait pas les voir d'en haut, car elles étaient très bien camouflées. Il fallait donc situer exactement le point où étaient ces avions et tous les matériels de guerre allemands pour pouvoir le situer sur une carte et le faire passer en Angleterre. Et dès cette époque-là, c'est-à-dire de 40-41, les réseaux n'étaient pas constitués encore. Les Anglais se trouvaient à Limoges, en zone libre, ou même à Châteauroux quelquefois, mais souvent à Limoges, les Anglais étaient là-bas. Et il fallait donc traverser la ligne de démarcation qui était gardée par l'Allemagne, par les Allemands, avec ces documents, et même quelquefois avec des agents, de nos agents, qui devaient prendre contact avec les Anglais parce que les renseignements que nous donnions aux Anglais à l'époque étaient valorisés par les Anglais. C'est-à-dire que si renseignements étaient valables, les Anglais monnayaient, c'est-à-dire payaient à leur valeur nos agents. Si les renseignements étaient en double ou ne les intéressaient pas, ils ne payaient rien. Or, pour arriver à maintenir notre groupe de SRR qui travaillait en Bretagne et donc qui venait passer en Touraine pour franchir une démarcation, ces braves anciens de l'aviation d'ailleurs, militaires même, n'étaient pas très riches et on était quelquefois obligé de leur avancer de l'argent pour leur permettre d'attendre qu'ils puissent avoir des renseignements qui étaient valables et qui étaient payés à une valeur suffisante pour leurs frais, car ces braves militaires, il y avait des adjudants, il y avait quelques lieutenants qui étaient révoqués par Vichy, et n'avaient pas les moyens de pouvoir faire du bénévolat. Nous, par contre, étant artisans ou industriels, nous n'avons pas besoin d'être payés, c'est nous qui les avancions les fonds pour qu'ils puissent faire leur travail. Bien sûr, je peux vous citer des cas où on passait à une démarcation où c'était très très difficile car il fallait franchir à travers des champs de topinambour pour se cacher, pour ne pas être pris par les patrouilles. Car aussitôt que on a passé la ligne et qu'on est aperçu par les feldgendarmes allemands, immédiatement, ils nous tiraient dessus et là, il n'y a pas de problème. On était tués immédiatement. Donc c'était très délicat. Et moi, en ce qui me concerne, je pouvais arriver à faire passer ces agents-là plus facilement car j'avais obtenu de la Feldkommandantur un Ausweis, c'est-à-dire un laissez-passer de la ligne de démarcation, ayant, établi une succursale en zone libre. J'avais mon affaire d'électricité, de mécanique à Tours. Et de l'autre côté de la démarcation, j'avais créé ce qu'on appelle une succursale, mais enfin une agence. En fait, c'était une grange où j'avais un dépôt de matériel qui était fait pour uniquement obtenir l'Ausweis, ce qui m'a permis de passer les documents dans mon gazogène, camouflés, bien entendu, de telle façon que malgré la fouille, les Allemands n'étaient pas capables de pouvoir le trouver. Et ensuite, il fallait passer nos agents qui travaillaient avec nous, qui voulaient recevoir les fonds que les Anglais pouvaient leur donner à Limoges, pour pouvoir ensuite recommencer leur travail. Enfin, ceci a marché jusqu'en 1942, jusqu'au jour où un de nos agents, le principal qui était en Bretagne, un nommé Drouin d'ailleurs, a été arrêté et fusillé. Tout le réseau a été démantelé entièrement. Et comme heureusement à la seule arrestation ce brave monsieur Drouin ou il était adjudant-chef je crois, oui adjudant-chef Drouin n'a pas parlé, alors moi je n'ai pas été arrêté et on a pu continuer donc par conséquent à faire du renseignement, mais comme nous n'étions coupés maintenant avec je dis bien notre réseau de Bretagne, Je me suis engagé tout de suite à un réseau qui venait de se constituer, qui s'appelait CMD Castille, confrérie Notre-Dame, dont le colonel Rémy, n'est-ce pas, était le grand patron. Je me suis engagé à CMD Castille parce que j'avais déjà un de mes camarades qui était à la direction, ou plutôt à l'administration de l'aviation populaire avec moi, qui était ingénieur instructeur et en même temps qui faisait le secrétariat. Et ce garçon-là était déjà, lui, engagé à CND Castille depuis à peu près 2 ou 3 mois. Comme j'étais toujours en relation évidemment avec lui et qu'il voulait absolument que nous soyons ensemble dans la résistance, je me suis engagé donc à CMD Castille. Et dans l'espoir, bien entendu, de continuer les renseignements et de pouvoir les passer à Londres, hélas. Pour les passer à Londres, c'était tellement difficile qu'il n'y avait plus question d'aller retrouver les Anglais à Limoges. Les réseaux français étant constitués, on avait même reçu un ordre formel de Rémy, colonel Rémy, disant surtout pas de contact avec les Anglais. Notre résistance française n'a rien à voir avec eux et c'est même très dangereux pour vous de contacter, de travailler avec les agents anglais. On a eu des problèmes et c'est formellement interdit. Alors donc, pas question de continuer avec Limoges. Et on a donc continué à faire du renseignement, mais impossible d'avoir la radio. La radio était toujours en ou en Bretagne, ou à Lille, ou à Bordeaux. Et en Touraine, on ne pouvait pas avoir de radio pour passer nos messages. Donc, ça a donc été très difficile. J'ai donc recontacté, et d'ailleurs, je peux dire que je n'ai jamais arrêté de le revoir, le colonel Sadi Lecointe, qui était donc adjoint de Jean Moulin, qui est d'ailleurs, il est, comme je le disais, il avait une petite propriété en Touraine, et je le voyais, chaque semaine je le voyais, et je savais que de son côté, il était adhérent d'un réseau qui s'appelait Andromède. Réseau Andromède. Ce réseau Andromède avait des possibilités sur Paris, dans la région parisienne, de faire passer ses messages à Londres. Donc, tous les messages que je pouvais obtenir sur l'aviation dans la région de Touraine, bien entendu, dans le Loir-et-Cher et dans le Loiret, et puis même sur les renseignements que je pouvais encore avoir sur la Bretagne ou la Normandie, je les faisais donc passer à notre ami Sadi Lecointe, qui venait régulièrement, chaque semaine, chez moi, prendre les documents que je lui donnais et qu'il pouvait faire passer donc à Londres par ses radios qu'il avait dans la région parisienne. Mais c'était très bien sûr, c'est le renseignement a fonctionné de cette façon-là. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. J'avais réussi à contacter en Touraine plusieurs camarades qui s'avéraient vouloir faire de la résistance à tout prix, mais la résistance action, c'est-à-dire non pas du renseignement, qui voulait l'action, et notamment un ingénieur en chef de la ville de Tours, qui s'appelait d'ailleurs Monsieur Vénien, un capitaine de réserve, voulait absolument monter un maquis dans la région de Tours, dans les bois de la région de Chinon, ou dans la région de Touraine, avec les STO, c'est-à-dire les jeunes gens qui étaient désignés pour aller pour le travail obligatoire en Allemagne, qui avaient reçu leur convocation pour partir en Allemagne. Et comme ils ne voulaient pas partir et travailler pour les Allemands, c'était donc des réfractaires, ce qu'on appelait des réfractaires. Ces réfractaires-là étaient poursuivis par la gendarmerie allemande et étaient envoyés ou en prison, en camp de déportation, attendu qu'ils refusaient de partir. Mais il fallait donc les cacher immédiatement et rapidement. Et ce monsieur Vénien, donc le capitaine de réserve Vénien, se chargeait, lui, n'est-ce pas, de les rassembler pour constituer donc ces maquis. Mais constituer un maquis, c'est bien, mais ces pauvres garçons, qui étaient d'ailleurs tous jeunes, n'avaient absolument pas d'armes du tout, que deux ou trois fusils de chasse pour 50 garçons, et absolument désarmer le territoire allemand. Il m'a donc demandé si, moi, dans les relations avec la résistance, si je pouvais lui procurer des armes. Je me suis dit, mais pourquoi pas, attendu que j'avais fait la connaissance d'un agent de la Télévance Service, mais qui était français, qui était à Londres faire une instruction de radio, que j'avais été recueillir à la descente d'avion dans la nuit en Touraine pour pouvoir l'établir dans les endroits où les Allemands ne pouvaient pas le détecter, car il était descendu, c'était un radio, il avait fait ses instructions radio à Londres, il avait tout son matériel radio. Je suis allé chercher dans la nuit des environs d'Amboise, et je l'ai mis dans pleine campagne, dans une ferme, pour pouvoir faire ses émissions de radio, ce qui nous a donc d'ailleurs permis de continuer à passer du renseignement directement, tout en donnant à Sadi Lepointe, je passais des renseignements par ce radio-là, qui était donc lui, membre du réseau Burgmaster. Et son nom c'était Monsieur Dubois, mais en réalité c'était Hercule dans son nom de résistance. Hercule, donc le réseau Hercule Burgmaster a été constitué en Touraine grâce à moi et à ce Monsieur Hercule, et nous avons là recruté des paysans dans la région pour faire des parachutages et moi de mon côté des tourangeaux, des camarades de résistance qui étaient à Seine-des-Castilles, qui étaient à Turma-Vengeance, qui étaient à différents tourangeaux, mais qui voulaient absolument aussi profiter des parachutages et qui auraient voulu avoir au moins un revolver et une mitraillette. On a donc commencé les parachutages près d'Amboise, d'un petit hameau qui s'appelle Artigue. Et là, on a donc continué, donc, je vous dis, à envoyer nos renseignements et puis recevoir les armes jusque septembre 1943. Hélas, le réseau a été complètement démoli par une femme qui était au courant par son frère, qui était malheureusement un de nos agents, et étant arrêté, qui a donné tous les noms de nos agents qu'elle connaissait. Bon, moi d'ailleurs, mais heureusement, je ne les connaissais pas tous, car moi je ne lui avais pas donné les noms de ceux que j'avais recrutés, et elle ne les connaissait pas, donc j'ai été arrêté fin décembre 1943, été torturés pendant 3 mois pour essayer de... Car ils essayaient de savoir quels étaient les noms de ceux que j'avais recrutés, mais ils n'ont jamais su, et donc... Le réseau Seine des Castilles a continué à fonctionner à Touraine grâce à, aux agents que j'avais recrutés et que les Gestapo ne connaissaient pas. Là, pour moi, ce qui me concerne, c'est très simple. Il y a beaucoup plus de détails.
Interview de Monsieur Papin. Fait le 15-04-94. Il faudra s'intéresser aussi au problème de liquidation des réseaux. Certains membres ont été affiliés à d'autres réseaux parce qu'ils ne savaient pas où s'affilier. D'autres membres étaient dans plusieurs réseaux, donc ont choisi un réseau où s'affilier. Tour ne disposait pas de radio. Ça a été le grand problème. C'est pourquoi M. Papin a décidé d'aller chez Buckmaster.